RCF.
Je sais pas, c'est trop bien quand tu te dis, ça y est, c'est ma vie.
On casse la routine. Glace au chocolat.
Voilà.
C'est essentiel pour mon équilibre.
Avec chantilly.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Envie d'un peu plus de détente et de culture sur les ondes en fin d'après-midi. Bien, pas besoin de référendum, c'est toujours dans notre programme. Alors à l'affiche aujourd'hui, un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Je vous rappelle cette citation. Eh bien, l'occasion des 150 ans du pèlerin, Marie Bonnebus nous dira comment le magazine a suivi cette épopée spatiale. Et puis au même titre que les phares et les bateaux de pêche, ils font partie du paysage des côtes bretonnes. Ce sont les mouettes et les goélands. Claire Decan nous aidera à ne pas les confondre dans le rendez-vous animalier du mercredi. Elle, son oiseau symbolique, ce serait plutôt la cigogne d'Alsace, mais c'est dans un petit village breton qu'elle a fait son nid pour résoudre ses enquêtes. Un choc des cultures, pas étranger non plus à ces deux auteurs. Bonjour Margot et Jean Lemoyle.
Bonjour.
Bonjour Vincent.
Ravi de vous avoir tous les deux avec nous aujourd'hui en direct de RCF Isère à Grenoble, qu'on remercie déjà pour nous permettre ce duplex. Alors Jean et Margot Lemoyle, ce sont vos pseudos d'écrivains. Est-ce qu'on peut donner les vrais ou c'est un secret d'État ou un secret régional?
Il n'y a pas de secret, vous pouvez donner les vrais.
Ah bah alors donnez-les-nous.
Donc Simone Vendroux.
Et Olivier Vendroux.
Et Olivier Vendroux. Alors Olivier et Simone, couple à la ville et dans l'écriture, puisque tous les deux, bien, vous êtes auteurs de Bretzel et Beurre Salé, une série qui met en scène Cathy Wald, une quinquagénaire alsaco ou alsaco-bretonne, version régionale de l'inspecteur Colombo, sans l'impair, mais au ciré jaune. Illustration avec le quatrième titre de la saga, Loin des yeux, loin du cœur, qui est sorti le 22 mars chez Calman Lévy. Alors comment est née cette héroïne? Comment est-ce qu'on arrive à écrire à quatre mains tout en ayant des idées de meurtre? Vous allez nous le dire, tout doux entre galette et flamencuche, c'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Madame, je pense qu'il est temps de vous lever. Aucune réaction. La dormeuse semblait ne pas entendre sa voix grave, qui selon son mari, lorsqu'il était de mauvaise humeur, était assez délicate pour réveiller un mort. Ce n'était pas normal, non, vraiment pas. Malgré la peur qu'il avait saisie, Sandrine posa la main sur une des épaules dénudées. Elle était glaciale. Elle retira instantanément ses doigts du corps, descendit et précipita dans le jardin. Tremblante, elle composa le numéro de la gendarmerie.
Voilà, mais qui est cette jeune femme retrouvée morte dans un gîte perdu dans la forêt bretonne? Qui a bien pu mettre fin à ses jours? Eh bien la réponse, je vous le donne. Ben non, c'est comme si on allait vous la donner, il faut quand même pas exagérer non plus. C'est en tout cas ce que va chercher à comprendre Cathy Wald et mettre aussi en émoi tout le village voisin. Un village qui répond au nom de Locmaria. Est-ce qu'il existe vraiment ce village, Olivier?
Alors Locmaria, le village de l'histoire, n'existe pas comme tel. En fait, c'est un patchwork de villages bretons, ce qui fait que tout lecteur va s'y retrouver. Mmh. On avait volontairement évité de prendre un village existant pour la bonne et simple raison que certains des personnages ou des notables sont peu sympathiques. Voilà, on voulait pas commencer à avoir des problèmes.
Des problèmes avec le voisinage. Alors on va venir sur ce dernier roman, mais auparavant un petit retour à vos origines, Olivier, ou plutôt Jean et Margot. Vous êtes nés la même année, mais pas au même endroit. Strasbourg pour vous, Margot, et Paris en ce qui vous concerne, Jean. Paris, non pas Quimper ou Saint-Malo. Alors, quels sont vos liens avec la Bretagne?
Ma famille maternelle. Voilà, oui. Mon grand-père était de Brest, ma grand-mère de Morlaix. Oui. Et donc, voilà, j'ai gardé des fortes attaches de ce côté-là.
Donc, vous sentez plutôt breton dans l'âme, alors, finalement?
Je me sens, oui, voilà, breton dans l'âme. Mais plus le temps passe, plus c'est fort.
Plus les racines s'enfoncent. Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux? C'était lors d'un voyage touristique. Racontez-nous, Margot.
Alors, touristique, pas vraiment, parce qu'en fait, après nos études dans nos régions respectives, on s'est rejoints, sans le savoir, à Grenoble pour faire des études d'ingénieur, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, on a usé nos fonds de culottes sur les mêmes bancs d'amphi, on a eu le temps de faire connaissance durant nos 3 ans d'études.
Oui, justement, est-ce que ça a été marié au premier regard, ou plutôt l'amour est dans le pré, va donc voir si j'y suis?
Alors, ça dépend, suivant que si c'est Olivier ou si c'est moi qui réponds, ce ne sera pas forcément la même réponse. Donc moi, oui, ça a été assez rapide, on va dire. Olivier, peut-être un peu moins.
Oui, Olivier. J'ai remarqué, il m'a fallu le temps de bien me rendre compte. Vous savez, les hommes souvent n'ont qu'un neurone et il leur faut plus de temps.
Pour bien voir si c'est la bonne. L'écriture, est-ce que c'était déjà un bébé commun chez l'un et l'autre? Vous aviez toujours eu chacun ou chacune la plume qui vous démangeait, Jean?
Oui, alors j'ai toujours beaucoup lu. Je crois que je faisais partie de la population qui avait pas sa première télévision à 35 ans. Mmh. Donc j'adorais lire et j'adorais écrire aussi. Donc déjà petit, je racontais des histoires. Donc c'est assez naturellement que je suis arrivé à l'écriture.
Et vous, Margot?
Alors moi, je m'y suis mise un peu autrement, en rentrant par une petite porte latérale, parce que Jean, à partir de 2012, a écrit des thrillers et je lui ai servi en fait d'éditeur pour retravailler son texte et le mettre en ligne sur des plateformes d'auto-édition. Mmh. Alors, ce qui était au début un travail c'est devenu, disons que je me suis professionnalisée dans le temps. Oui. Et petit à petit, j'ai vraiment pris mes marques dans ce domaine.
Alors, nouvelle étape littéraire commune à partir de ceci, un petit indice gastronomique.
Je crois qu'on dit le brezel et l'important c'est qu'on le mange de toute façon.
Mais on trouve que la brezel au féminin est plus croustillante.
Le brezel, c'est l'apéritif partage pour moi.
Eh bien, les deux se disent, masculin ou féminin, ici, tout le monde en raffole.
Voilà, tout le monde en raffole, extrait d'un documentaire autour de la gastronomie alsacienne. Un bretzel ou une bretzel, Margot? Il y a vraiment une différence?
Alors, pour moi, c'est une. Ah. Maintenant, si on me dit un, je pense que je comprendrai quand même.
et d'où vient cette forme emmêlée caractéristique? Est-ce que vous le savez?
La forme de la bretzel, ouais. Non, je ne sais pas.
Non, il paraît que ça vient de la forme du soleil, paraît-il. Je ne sais pas si vous confirmez ou pas, vous qui êtes alsacienne.
Je ne sais pas du tout. Moi, non. Je l'ai mangé tout simplement et je m'imitais à ça.
Sans poser de questions. En tout cas, bretzel et beurre salé, c'est le titre générique de cette série que vous allez commencer à écrire avec un premier tome publié il y a juste 3 ans. Comment elle est née justement, cette série, Jean?
Comme le disait Margot, j'ai commencé à écrire des thrillers, sur lesquels elle avait un travail d'éditrice, notamment
sous le nom de Jacques Vendroux, hein, c'est ça. C'était...
Sous le nom de Jacques Vendroux. Voilà,
il y avait une allusion d'ailleurs au journaliste sportif.
Mais absolument pas, ouais. Absolument pas. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je pensais en vendre une dizaine à la famille. Donc, j'avais pas pris mon premier prénom.
Grande ambition prénom, déjà en tant qu'écrivain. En vendre 10 à la famille.
Et on a commencé en même temps que l'installation d'Amazon sur tout ce qui était numérique. Mmh. Et au bout de 3 mois, on s'est retrouvé numéro 1 en vente de numérique. Oui. Alors, il y avait moins de livres, mais enfin, c'était quand même un beau succès. Et donc, finalement, ce Jacques Vendroux qu'on avait mis un peu comme ça, il est resté. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de mails, notamment des messages me demandant si j'avais l'adresse de Michel Platini. donc, je dis, je ne l'ai pas. Et oui, ça, de temps en temps, ça... Ça, de temps en temps, les personnes se posaient la question, mais est-ce que c'est le même? On a 20 ans d'écart. Ouais. Voilà. Donc, on a des thrillers. On a bien marché en auto-édition et du coup, on s'est fait repérer par Robert Laffont et on a commencé à rentrer dans le monde de l'édition. Et c'est comme ça qu'on a connu finalement l'éditrice qu'on a aujourd'hui, alors plus chez Robert Laffont, mais chez Calman Levy.
Et alors, comment est venue justement cette idée d'écrire à deux, Margot?
Alors, en fait, comme il écrivait des thrillers, donc, plutôt assez violent, c'était assez engagé, on va dire. Et je venais de lire un livre publié justement chez Robert Laffont, donc Julia Chapman, les enquêteurs de Yorkshire, que je conseille vivement d'ailleurs, qui était un des premiers cozy mystery vraiment bien, enfin à mon goût. Hein. Et comme il écrivait, il avait pas tellement le temps de lire, donc je lui racontais un peu mes lectures et je lui ai dit en lui racontant, tu devrais écrire ce genre de bouquin parce que je pense que ça correspondrait bien à ton caractère et à ton humour.
Alors il faut peut-être préciser, un cosy mystery, c'est plutôt le style Agatha Christie. Il n'y a pas de psychopathe halluciné, des litres de sang à toutes les pages. Hein. C'est ça qui vous plaisait dans ce genre-là.
Il n'y a pas de sang, il y a de l'humour. Alors moi c'est plus l'humour qui me plaisait, le sang. Mmh. Le sang me dérangeait pas trop, mais disons que effectivement le style cosy mystery, c'est tout ce qui est pas très beau, ça se passe, mais derrière la porte, on ne le voit pas. Et dans le livre lui-même, c'est plus enquête et humour. Donc nous, on insiste aussi beaucoup sur cet aspect humour, plus que dans un Agatha Christie, par exemple. Ouais. Et donc voilà, et donc il m'a dit, ok, je m'y mets, enfin on en a pas mal parlé ensemble, mais par contre, tu le fais ça avec moi. Donc voilà, c'est parti comme
ça.
Alors
vous avez, c'était le piège. Voilà, et vous avez accepté facilement d'écrire
un
deux.
Un peu à reculons un peu au départ. Puis bon, finalement, quand il était dans l'aventure Jacques Vendroux, ce qui lui manquait, c'est d'être un peu plus accompagné. Et puis moi, je travaillais beaucoup sur le sujet, mais j'étais toujours en fond. Et là, le fait d'être à deux, ça fait qu'on est au même niveau et on partage plus de choses. Donc, c'est bien.
Alors, comment ça se passe justement l'écriture à quatre mains? La question qu'on vous a jamais posée, ben, on vous la posera tout à l'heure. En tout cas, une enquête à Locmaria. Le premier tome va sortir en mars 2021. Ça sera suivi d'une pilule difficile à avaler en juin de la même année. L'habit ne fait pas le moine en 2022, qui vient d'ailleurs, si je ne me trompe pas, de sortir en poche aujourd'hui. Hein, c'est le troisième tome. Ouais. Et donc, le quatrième, Loin des yeux, loin du cœur, qui est sorti le 22 mars dernier. Alors on va s'y plonger, ça sera tout de suite après une première page musicale. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les hommes et votre choix, Jean, c'est Nolwenn Leroy, aux surprises, avec Trimatolode, pardon. Une raison évidente à ce choix.
Écoutez, alors, oui, non, c'est des chansons assez populaires bretonnes qu'elle a reprises, qu'elle a chantées en breton. Oui. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que, on va dire, il y a un certain temps, quand j'avais une quinzaine d'années, quand des chanteurs bretons passaient, on allait en vacances en Bretagne, il se passait souvent dans les églises des gens comme Alan Stivell, qui maintenant sont des cadors. Mais voilà, ça attirait pas grand monde. Mais avec le temps, finalement, cette culture bretonne est en train de prendre de l'ampleur. Et voilà, et on retrouve ces chansons-là et puis on va la partager.
On va la partager tout de suite avec Nolwenn Leroy. On se retrouve tout de suite après pour plonger dans ce village de Locmaria où il se passe de drôles de choses.
Venez d'un village, trimartolote et au ronc. Tra la 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 la, trimartolote et au ronc. Venez d'un village, venez d'un village. Venez d'un village, venez d'un village. Venez d'un village, gonna be a bit cassé. Tra la 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 la, gonna be a bit cassé.
Trimatolode par Nolwenn Leroy, le choix breton de Jean Lemoyle, qui avec son épouse Margot, là aussi sous son nom de plume, sont les deux auteurs de Bretzel et Beurre Salé, une série dont le quatrième tome vient de sortir chez Kalman Levy. Alors tout commence, on l'a entendu tout à l'heure, par ce meurtre mystérieux d'une jeune femme dans un gîte reculé de la forêt bretonne. Est-ce qu'on peut révéler son identité, le début de l'histoire, hein? Qui s'y colle entre vous deux, Jean et Margot?
Bon, le petit signe de tête me montre que c'est moi.
Laissez-vous, à vous l'honneur.
Donc la femme qui se fait assassiner s'appelle Cléopâtre Klingenthal. Donc son origine,
pas
on la devine.
Oui. Donc alsacienne et pas égyptienne. Oui.
Et pas égyptienne. Et en fait, le policier va s'apercevoir qu'il la connaissait. Et il la connaissait d'un voyage qu'avait organisé quelques mois plus tôt Cathy en Alsace.
Oui.
Alors la question va être d'abord pourquoi elle est assassinée, évidemment. Qu'est-ce qu'elle faisait là, parce que personne n'était au courant. Et donc c'est comme ça que l'enquête va commencer, et avec bien sûr ce qu'on aime bien faire, c'est mettre des fausses pistes, évidemment, c'est un peu le principe aussi de ce genre de livre. Et on aime aussi mener parfois plusieurs histoires en parallèle, de façon à ce que le lecteur ne s'ennuie pas sur un thème.
Alors justement, on va y venir. Alors c'est une enquête qu'on va confier officieusement, finalement, à celle qui en a déjà élucidé pas mal dans la région, à savoir Cathy Wald. Alors elle est romancière, propriétaire de Bretzel et Beurre Salé, c'est un des restaurants du village de Locmaria. Mais qui est-elle? D'où vient-elle exactement? Pour les auditeurs ou auditrices qui n'auraient pas encore découvert votre série, est-ce qu'on peut la présenter, Margot? Une femme de caractère.
Oui, alors c'est une femme de caractère, effectivement. Elle a la cinquantaine, elle est divorcée. Elle était mariée pendant de nombreuses années avec un mari finalement assez volage et qui la traitait pas bien. Donc elle a fini par... un jour, elle a craqué, elle l'a largué et puis elle s'est refait une vie. Et puis, elle avait une sœur aussi, Sabine, qui est décédée assez rapidement d'un cancer du pancréas, si je me souviens bien.
Il faudra relire vos
livres. Parce que ça commence à dater. Et elle lui avait fait une promesse, celle d'ouvrir un restaurant de tarte flambée en Bretagne. Donc c'est pour tenir cette promesse qu'elle a tout laissé en Alsace, d'autant plus que bon, elle a deux grands enfants, mais sinon elle n'avait plus vraiment d'attache en Alsace. Et ses deux grands enfants n'habitent plus à Strasbourg non plus. Et elle est allée s'installer donc à Locmaria, où elle a trouvé à la fois une très belle propriété et un restaurant dans le même village. Donc le coup de chance pour
voilà. Et puis un nouvel amoureux, Yann en l'occurrence, qui est journaliste.
Alors ça, c'est pas tout de suite. Hein, ça met un peu de temps à arriver.
Qui est journaliste à Ouest de France.
Les hommes sont lents. Voilà, les hommes sont lents.
On va en parler justement.
En l'occurrence, c'est elle qui prend son temps. Hein, mais...
Alors les suspects dans cette histoire, ils sont nombreux, entre le pharmacien, la gérante de Supérette, restaurateur, etc., qui ont participé donc à cette excursion en Alsace deux mois auparavant, qui avait été menée par Cléopâtre Klingenthal, donc cette jeune femme assassinée. D'où l'idée du major de la gendarmerie locale, Éric Julienne, de relever les empreintes de chacun pour savoir à quoi ça pourrait correspondre. Une décision qui ne fait pas l'unanimité des intéressés et qui oblige même la gendarmerie de Quimper à intervenir, on va dire, de manière plus musclée et même pas trop diplomatique.
Pas question de négocier avec eux, Major. Nous sommes les représentants des forces de l'ordre et c'est à vos villageois d'obéir aux injonctions de l'enquête. Je vous relève de votre commandement et je prends dès à présent la direction des opérations. Vous allez voir comment cette chouannerie de pacotilles est matée par des professionnels. Les chouans ont tenu tête à la République, précisa Julienne dans un réflexe. Vous, les Bretons, vous êtes trop attachés à vos traditions poussiéreuses. On n'est plus au XVIIIe siècle et on n'a affaire qu'à d'inoffensifs ploucs.
Voilà, d'inoffensifs ploucs bretons. Alors l'injure passe pas vraiment et ça se termine en manifestation un peu musclée. Il y a comme une forme de défense de l'identité bretonne. Est-ce que je me trompe là, Margot ?
Alors pas du tout. Alors, c'est plutôt à Jean qu'il faudrait poser cette question. Ouais. Mais pour l'Alsace, ce serait la même chose. Ouais. Hein. Les Bretons et les Alsaciens aiment beaucoup leur région et ne supportent, ont du mal à entendre lorsque cette région est critiquée. Ouais. Donc peuvent réagir assez effectivement de manière assez musclée.
Ah, oui, ils sont très accueillants, mais faut pas manquer de respect.
Pas manquer de respect aux Bretons. Alors la piste, elle va se resserrer autour d'un couple de suspects, puis l'affaire, elle va se compliquer autour d'une mystérieuse BMW dont les occupants vont s'intéresser à une ancienne prostituée qui est réfugiée dans la région avec son enfant. On ne va pas en dire plus, mais dans ce roman, on remarque que ce sont les femmes qui prennent les choses en main, d'abord avec son héroïne, Cathy Val, mais aussi il y a d'autres femmes qui ne vont pas se laisser faire. Je ne sais pas qui a eu cette touche féministe dans le roman, Margot. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Jean ?
Alors, c'est plutôt Jean qui aime bien écrire et décrire des caractères féminins dans ses romans.
Ouais.
Je vais lui laisser expliquer pourquoi.
En fait, quand on a un personnage féminin, on a une palette de réactions, de sentiments beaucoup plus large que quand c'est un homme. Un homme, souvent, on s'aperçoit que les réactions vont être assez binaires, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand ça ne va plus, il va mettre en place la violence. Avec une femme, on a beaucoup plus, en tant qu'écrivain, on a vraiment beaucoup plus de choix sur la façon dont elle va réagir. Donc c'est agréable de mettre des femmes héroïnes. Et puis en plus, on s'aperçoit, dans tous les cas, que ce sont quand même souvent les femmes qui mènent les affaires. Hein. Alors elles se cachent parfois... Pour laisser des hommes devant, mais elles sont derrière.
Margot, ça ne vous déplaît pas, ce genre de...
Mais dans les cozy mysteries, dans ce style de roman, en général, ce sont des femmes qui sont les héroïnes. Hein. Il y a assez peu de... Enfin, j'en ai pas en tête, en tout cas, de cozy mysteries où c'est un homme qui est le héros de l'histoire.
Même Hercule Poirot, vous ne le mettez pas dans les cozy mysteries ?
Je ne mettrais pas trop, non.
Oui. En tout cas, là.
Hercule Poirot, c'est quand même un... Non, c'est un journaliste, c'est ça, si je me souviens bien.
Ouais. Alors lui, non, je crois qu'il est policier, tout simplement. Enfin, il faudra relire les Agatha Christie.
Ouais. Dans les cozy mysteries, c'est pas des policiers qui résolvent l'enquête. Les policiers, souvent, sont un peu dépassés ou font appel aux héros.
Il est détective, plus simplement. Alors, dans ce livre, il y a aussi des personnages qui sont un peu hors normes. Hein. On en croise dans le village, que ce soit le pharmacien, le restaurateur voisin, que ce soit aussi la gérante de la supérette, qui ont tous leur caractère. Il y a aussi ce curé qui n'hésite pas à participer à une opération commando. On est quand même loin de tendre l'autre joue sans réagir, hein, Jean Lemoyle, surtout sur une radio d'expression chrétienne.
Ouais, il fait quand même ça pour sauver des gens, donc le fond est bon. Ouais. C'est vrai qu'on a eu envie déjà dans un village, l'église est souvent au centre du village, mm-hmm. et on a eu envie de mettre en œuvre, enfin de voilà un prêtre. Donc c'est une personne qui a 60 ans, qui fait 2 mètres de haut. Les mauvaises langues disent que depuis qu'il est là, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de femmes qui participent à la messe, mais il n'en abuse absolument pas. Ouais. Et ça va être un personnage assez important, et c'est un personnage qu'on aime bien.
Ouais.
Qui est à la fois fragile et puis par moments très, ouais. très fort, qui va très bien s'entendre avec Cathy. À deux, ils vont faire une paire.
Ouais. Et on le retrouve d'un roman à l'autre, ouais. enfin d'une histoire à l'autre. Ouais.
Voilà, il défend la justice, mais à sa façon, et à sa façon un petit peu musclée. En tout cas, ce qui fait tout le sel de ce roman, c'est ce choc de culture savoureux, dans tous les sens du terme, hein, entre Alsace et Bretagne. On va y venir, mais le mercredi, on se replonge aussi dans l'histoire, à l'occasion des 150 ans du magazine Pèlerin, et aujourd'hui avec Marie-Vonne Bus, eh bien, direction la Lune.
Tout doux, 150 ans d'histoire avec le Pèlerin.
Et bonjour Marie-Vonne.
Bonjour Vincent.
Alors cette semaine, on va poursuivre notre voyage dans les années 60 en nous arrêtant sur un événement considérable. Le premier pas d'un homme sur la Lune, c'était le 20 juillet 1969.
Ce fut effectivement un événement considérable dont les moins de 20 ans auraient peut-être du mal à comprendre le retentissement aujourd'hui. Car désormais, les vols spatiaux habités n'étonnent plus personne. Mais si on se replace dans le contexte de l'époque, c'était absolument prodigieux.
Alors justement, quel était le contexte de l'époque ?
Alors essentiellement, une compétition acharnée entre Américains et Soviétiques, un véritable sprint vers la Lune, comme l'écrit le Pèlerin. Et pendant les 10 ans qui précèdent l'alunissage, il raconte d'ailleurs au lecteur chaque étape de ce sprint. Mais tout en saluant l'extraordinaire exploit et le courage de ceux qui partent à la conquête de la Lune, il se fait aussi l'écho, le 27 juillet, des avis critiques et il souligne qu'il y a peut-être d'autres urgences pour améliorer le sort de l'humanité que d'envoyer à grands frais des cosmonautes dans l'espace.
Oui, effectivement, parce que la facture était salée. Hein. Plus de 2 milliards pour la seule mission Apollo 11, 5 milliards pour le programme au total. Alors c'est une question qui va être l'objet justement d'un débat publié dans le numéro du 31 août 1969 du Pèlerin. Et ceci entre deux célébrités de l'époque, Haroun Taziev et Paul-Émile Victor, un vulcanologue et un spécialiste des expéditions polaires pour parler de l'exploration de la Lune. Alors c'est quand même assez bizarre comme choix. Pourquoi pas un astronaute ?
Alors bon, j'imagine qu'à l'époque, on n'en avait pas beaucoup sous la main. Mais plus sérieusement, il s'agit de deux scientifiques réputés et leurs arguments sont tout à fait pertinents. Ainsi, admet Haroun Taziev, j'ai admiré cette formidable infrastructure technique et scientifique, mais il ajoute aussitôt que notre Terre est encore, je le cite, en bonne partie inconnue, sans parler du fond des océans, et il renchérit. Il reste énormément à apprendre sur les causes profondes des tremblements de terre, le volcanisme, la naissance et le développement des cyclones, etc. Tout cela est étudié avec des moyens insignifiants lorsqu'on les compare à ceux utilisés pour l'exploration spatiale.
Alors ça, c'était l'avis d'Haroun Taziev. Et de son côté, que répond Paul-Émile Victor ?
Alors lui, il est littéralement subjugué par ce premier pas sur la Lune. C'est la plus grande expérience que l'homme ait faite depuis qu'il existe, affirme-t-il. Et il enfonce même le clou, quitte à placer sa propre discipline au second plan. Je le cite, « Certes, nous préparons avec les Américains et les Russes une exploration du plateau Antarctique, mais nous savons très bien ce que nous y trouverons. Et la préparation technique des explorateurs de la Terre par rapport à la préparation des astronautes, c'est du pipi de corbeau. »
Du pipi de corbeau, une jolie formule, oui.
Voilà, et surtout, il redit sa foi dans le rôle essentiel de la recherche scientifique. Elle est, dit-il, à la base du progrès technique, sans lequel il n'y a pas de progrès social.
Puisque nous parlons de foi, une autre interrogation spirituelle traverse également les pages du magazine. Et si la conquête spatiale révélait la présence d'autres êtres vivants dans l'univers ?
Effectivement, l'auteur d'un de nos articles, publié le 18 mai, n'écarte nullement cette possibilité. Et si nous n'étions pas seuls, se demande-t-il, ce qui ouvre un dilemme spirituel d'un genre nouveau. Comment, comme chrétiens, devons-nous considérer ces créatures ? Si elles existent, précise l'auteur, alors nous affirmerons simplement que ces êtres ont été créés par Dieu et que nous devons les aimer comme tels.
Voilà, l'aventure spatiale était donc aussi mystique. La conquête spatiale à revivre dans le numéro de Pèlerin qui sort donc demain en kiosque. Eh bien, merci Marie-Vonne Bus, et puis on vous retrouvera la semaine prochaine pour une autre plongée dans l'histoire. Bonne fin de semaine à vous.
Merci Vincent.
Doudou avec Vincent Belletti.
Jean et Margot Lemoyle, est-ce que vous vous rappelez de ces premiers pas de l'homme sur la Lune? Vous étiez quand même assez jeune à l'époque.
Oui, moi j'étais petite, mais je me souviens que mes parents, enfin du coup moi aussi, regardaient ça à la télé avec beaucoup d'attention et effectivement en trouvant que cet événement était assez extraordinaire.
Oui. Je me souviens de mes parents me réveillant.
Oui.
Et alors, je ne me souviens plus de l'image du tout, mais je me souviens d'avoir été réveillé.
Vous aviez quoi, 4 ans, on peut le dire, à peu près 4 ans, voilà, ans à l'époque. Ouais.
Et c'est mon premier souvenir télévisuel.
Ouais. Donc ça vous a profondément...
Et pas le moindre.
Ouais. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que la conquête spatiale, certes, elle a coûté cher, mais elle a quand même permis pas mal de progrès scientifiques dans différents domaines, médical, recherche, voire même les couches culottes. On a eu l'occasion d'avoir justement un comédien qui a fait un spectacle là-dessus, qui nous a dit que les couches culottes, justement, pour les astronautes, c'était très précieux, parce qu'ils ne pouvaient pas aller exprimer leurs petits besoins dans l'espace, donc il fallait inventer quelque chose, d'où la naissance de la couche culotte. En tout cas, avec vous, retour sur Terre, en Bretagne, où se situe votre dernier roman Bretzel et beurre salé. On va continuer d'en parler, de même que de deux animaux emblématiques de la région. A tout de suite.
Tout doux, une émission de Radio Notre-Dame et RCF, présentée par Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec nos invités du jour, Margot et Jean Lemoyle, le couple à la ville et en librairie, puisque tous les deux auteurs de la série Bretzel et beurre salé, une saga policière qui se déroule dans un petit village breton, avec comme héroïne une Alsacienne enquêtrice énergique qui y a élu domicile. Le dernier tome, Loin des yeux, loin du cœur, est sorti le 22 avril chez Calman Lévy. Alors ce roman, eh bien, c'est justement l'occasion de confronter les cultures alsaciennes et bretonnes, côté gastronomie, mais aussi côté caractère. Qui, à votre avis, entre un breton et un alsacien, sont les plus têtus? Je ne sais pas, Margot.
Oh, moi, je dirais un breton.
Et Jean va dire une alsacienne, non?
Non, différemment, c'est des caractères forts, mais bon,
ouais.
Pas exactement les mêmes.
Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des points communs entre les deux régions? Alors que ça soit peut-être dans la gastronomie, mais ça peut être aussi le caractère, à votre avis, Margot?
Déjà, l'amour de sa région, je pense que ça, c'est vraiment un point commun entre les deux. D'ailleurs, il y a un certain nombre de jumelages de villages entre l'Alsace et la Bretagne. Mmh. Et on a rencontré au cours des séances de dédicace énormément de couples alsaco-bretons ou bretonneux alsaciens.
Oui.
Donc on a été surpris, oui, du lien qui... Alors beaucoup de gens aussi nous ont cité cette citation. On l'a entendu un certain nombre de fois, qu'entre l'Alsace et la Bretagne, il y a juste la France qui les sépare.
Mais c'est joli comme formule, effectivement. Oui.
Donc voilà, je pense que l'histoire de ces deux régions ont fait que... Et puis ces deux régions qui peuvent se comprendre aussi, qui comprennent que la singularité de sa propre région et du coup la singularité de l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs en France.
Ouais. Et vous, Jean, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi, comme le dit Margot, des points communs entre les deux régions? L'amour de la région, ça, on vient de le dire.
L'amour de la région. Et comme le disait Margot, on fait souvent, régulièrement des salons. Et voilà, le nombre de couples qui sont créés. Enfin, on a commencé dans la famille de Margot, hein, puisque sa tante alsacienne a épousé un breton. Mais c'est assez impressionnant. Alors que c'est deux régions, quand même, qui sont lointaines, avec des gens qui, pendant un temps, se déplaçaient peu. Hein, c'est quand même pas côté à côté, même si avec la France. Et il y a vraiment une compréhension. Alors, je n'ai pas cherché dans le détail le pourquoi du comment, mais
il y a vraiment une entente
entre ce rapport est là.
Alors justement, dans chaque région, c'est aussi l'occasion à travers ce livre de dénoncer quelques petites caricatures. Je vous propose un petit échantillon. Écoutez, côté breton.
Hé, hey, canavo. Hein, mais non, canavo, ça veut dire au revoir, ça veut pas dire bonjour. Ça commence bien, ça. Alors, Nolwenn le roi, on met plus de sabots en Bretagne. Pourquoi? Parce que le sabot, c'est peut-être la seule chaussure au monde où t'as plus mal aux pieds quand tu la mets que quand tu marches pieds nus. La langue bretonne, elle est pas moche. Elle a des sonorités difficiles. L'été, on se baigne. Bon, l'eau est pas chaude comme en Corse. Hein, 27 degrés, l'eau en Corse. Nous, en Bretagne, on rentre dans l'eau. 27 degrés, commence à cuire des pâtes.
Voilà, ça vous fait rire. Extrait d'une vidéo de Jules Fou. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur qui vous compile tous les clichés sur les Bretons. Vous tapez cliché breton Jules Fou et vous allez tomber dessus, vous allez rire au moins jusqu'à la fin de la journée. Ça vous agace ce genre de préjugé, Jean, sur les Bretons?
C'est amusant en général. Ouais. Je veux dire, les gens. Enfin, ouais, il y a un peu de tout, mais c'est dit plutôt avec un peu de d'humour et voilà. C'est vrai qu'on dit elle est bonne une fois qu'on est dedans, quand on se baigne. Bon, voilà. Mais c'est
déjà rentré dedans.
Même, voilà. Voilà, mais même des Bretons le disent.
Ouais.
Donc bon, alors après il y a quelques clichés qui agacent peut-être un peu plus, mais
je crois qu'avec le réchauffement climatique, bientôt la côte bretonne sera l'égale de la côte d'Azur, et je crois qu'on n'aura pas trop à se plaindre de la température de l'eau. Côté alsacien, est-ce qu'il y a des préjugés encore tenace qui vous agace, vous, Margot?
Oui, il y en a, tout à fait.
Par exemple,
quand je suis en réunion à Grenoble et que j'entends qu'à Mulhouse, c'est des Allemands, ou que le fait de parler allemand, c'est couramment un must pour tout Alsacien, ou que les malgré nous, s'ils ont été dans l'armée allemande, c'est bien qu'ils le voulaient.
Oui.
Ce genre de choses que j'entends encore aujourd'hui et qui m'agacent effectivement. Et donc, qu'on a essayé aussi un petit peu de combattre dans le deuxième tome, justement.
Ouais. Sur cet aspect un peu historique. Hein.
Voilà, tout à fait.
Alors, il y a une question qu'on ne vous a jamais posée. Comment est-ce qu'on fait pour écrire à deux? Alors déjà que ce n'est pas toujours facile de s'entendre sur qui va faire le ménage ou vider le lave-vaisselle. Qui fait quoi dans votre écriture? Comment ça se passe? Expliquez-nous quand même cette écriture à quatre mains, Jean.
Non, excusez-moi. En fait, on travaille beaucoup les scénarios ensemble. Donc souvent, c'est en se baladant entre la Bretagne et on habite Grenoble. Donc les balades sont fréquentes. Et on commence à se raconter l'histoire.
Mmh.
De temps en temps, on s'arrête. Margot prend des notes. C'est la spécialiste des notes.
Oui.
Et puis quand on rentre, on va réécrire ce qu'on a noté. Puis peu à peu, comme ça, on va construire des idées.
Oui.
Et avec ces idées, on va essayer de faire un scénario. Voilà. Donc ça prend un certain temps. Excusez-moi. Ça prend un certain temps, mais
ça c'est l'air breton qui vous rafraîchit, hein.
Oui, ou alors ce sont peut-être les pollens grenoblois, parce qu'il y a du vent. Il y a du soleil et du vent.
Ouais. Et donc
on construit le scénario ensemble, et puis après on le découpe sous forme de post-it, parce qu'on est super moderne. Et on se partage les chapitres. Voilà comment ça se passe.
Donc, chacun écrit un chapitre, alors. Margot, prenez le relais pour laisser le temps à Jean de reprendre son souffle.
Je vais laisser respirer un petit peu.
Oui.
Non, on se les répartit et c'est pas forcément un chapitre sur deux. C'est tiens, moi j'ai plutôt envie d'écrire telle ou telle partie et puis moi ce sera plutôt des soirées entre copines ou une séance sur la plage entre Yann et Cathy.
Et alors après, vous arrivez à confronter donc vos textes. Est-ce que y en a un qui se permet de dire à l'autre, non, j'aime pas trop ce que t'écris, il vaudrait mieux l'écrire comme ça?
Alors en fait, on se fait relire nos textes. Enfin, ce que j'écris, Jean le relit. Ce que Jean écrit, je le relis. Et avec liberté totale de modifier ce qu'on veut sur le texte de l'autre, sans que l'autre intervienne. Donc on est.
Ça, c'est l'accord de principe d'origine.
Voilà, oui. C'est ça. Bon, après, quand il y a vraiment des grosses modifications ou quand on estime que je sais pas, il y a 10 lignes qui sont vraiment trop, on peut en discuter, hein. C'est pas non plus, on fait pas tout ce qu'on veut non plus. Enfin, c'est pas qu'on fait pas ce qu'on veut, mais il y a un minimum de respect quand même par rapport au travail de l'autre. Mmh. Mais en tout cas, on se donne cette liberté mutuellement d'intervenir comme on veut sur le travail de l'autre.
Mmh. Et ça, c'est facile à accepter, Jean?
Alors, en fait, on avait l'expérience des thrillers avant, où Margot relisait, j'en ai écrit 6, où Margot les a tous relus, donc j'ai eu l'habitude de voir ce qu'elle faisait, de voir ce que ça apportait. C'est sûr que les premières fois...
Les premières fois, je manquais peut-être un petit peu de psychologie quand je disais non, ça c'est nul. Et c'était un petit peu difficile.
Ah oui, il y a une manière de le dire quand même.
Alors après, j'ai appris aussi à dire mieux et puis lui a appris à accepter. Donc on est allés l'un vers l'autre comme ça.
Et on a mutuellement compris l'intérêt que ça a pour le texte. Donc en fait, aujourd'hui, on ne se pose même plus la question. Et c'est la raison pour laquelle, comme on se connaît dans l'écriture, les lecteurs ne voient pas quand on passe d'un auteur à l'autre, ce qui serait quand même pas terrible.
Ouais.
Et pareil, comme voilà, si par exemple il y a une action qui dure 4-5 chapitres, bah, c'est le même qui va écrire l'action, évidemment.
Est-ce qu'à votre avis, l'écriture, c'est aussi un moyen de cimenter votre couple? Ça, c'est une question à la Mireille Dumas.
Alors l'écriture, je ne sais pas, mais tout ce qui tourne autour, oui, c'est-à-dire d'aller ensemble à des salons, de venir par exemple ici aujourd'hui, de faire un certain nombre d'activités communes, je pense que ça aide à créer effectivement un lien supplémentaire dans notre couple.
Oui, Jean. Je plus sois. C'est vrai que moi, en plus, on travaille pas au même endroit. On habite à Grenoble et moi, je travaille à Saint-Étienne. Et c'est vrai que l'écriture, donc le soir, on s'appelait, on s'échangeait des messages, des textes. Donc ça permettait de rester proche. Donc ça a été vraiment, oui, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience.
Voilà, une belle expérience qu'on peut peut-être recommander à certains couples s'ils veulent se lancer justement dans l'écriture. Alors dans cette émission, le mercredi, on parle aussi d'animaux. Et pour nous aider à en percer les secrets, on a une autre experte, Claire Decan, des éditions Fleurus. Et aujourd'hui, eh bien, on va prendre notre envol.
Alors, comment ça va, chien normal?
Oh, t'es super fort!
Mais on est plus fort que ce que vous croyez.
Tout doux, incroyables animaux.
Et bonjour Claire.
Bonjour Vincent.
Alors au même titre que les phares ou les bateaux de pêche, ils font partie du paysage des côtes bretonnes. Ce sont les mouettes et les goélands, des oiseaux qu'on a d'ailleurs tendance à confondre. Alors aidez-nous Claire, comment savoir si on a affaire à une mouette ou à un goéland?
Alors la première chose à regarder pour les distinguer, c'est la taille de l'oiseau. Parce que le goéland est bien plus gros que la mouette. Ensuite, on peut regarder le bec. La mouette a un petit bec rouge, alors que le goéland a un gros bec jaune qui est légèrement crochu. Mais c'est sûr qu'ils sont très ressemblants, et d'ailleurs, ils sont bien de la même famille, celle qu'on appelle la famille des Laridés.
Famille des Laridés. Alors, quelles sont leurs caractéristiques communes? Est-ce qu'il y en a?
Eh bien, il y en a de nombreuses, parce que du coup, ils sont très très ressemblants. Il y a d'abord les pattes. Alors, comme les autres oiseaux de mer, elles sont généralement palmées pour pouvoir nager, se propulser ou encore atterrir. En plus, pour être discret sur les eaux, les mouettes et les goélands ont le ventre de couleur blanche. Ils ont un corps fuselé pour plonger. Ils ont aussi une bonne couche de graisse pour s'isoler du froid. Et ils ont aussi un plumage imperméable.
Une bonne couche de graisse, vous dites. C'est vrai qu'ils aiment aussi tous les deux nous chipper nos glaces ou un bout de pique-nique. Ils sont pas trop farouches quand même.
C'est sûr. Mais s'ils s'approchent de près, ça sera certainement plutôt un goéland. Parce que le goéland est un peu moins timide que la mouette. Même beaucoup moins. Hormis la glace ou pourquoi pas le bretzel ou tout autre encas. En bord de mer, les oiseaux se nourrissent tous deux de poissons, de mollusques et de crustacés. Et ils n'hésitent pas à subtiliser des poissons sur le pont des bateaux de pêche ou même à attaquer d'autres oiseaux pour leur voler leur pêche.
Voilà, de quoi se voler dans les plumes. Cela dit, mouette et goéland, oiseaux marins, mais on entend parfois leur cri en ville. Ça veut dire quoi? Qu'ils se sont égarés?
Eh bien non, ces oiseaux peuvent en effet déserter les côtes et poser leurs valises en ville, dans les espaces verts ou près des fleuves. On en les retrouve par exemple à Paris, près de la Seine. Et donc c'est un petit peu surprenant, c'est sûr. Et dans ce cas, ils vont manger des insectes, des baies ou encore des restes de nourriture. C'est surtout le cas de la mouette, plus que du goéland, même si on en voit aussi à Paris et dans les autres villes. Et la mouette la plus répandue est la mouette rieuse.
La mouette rieuse, celle qu'on retrouve d'ailleurs dans le célèbre bureau de Gaston Lagaffe. Mais pourquoi rieuse justement? Ça veut dire quoi là? Le sens de l'humour, cette mouette?
Eh bien, peut-être, mais en tout cas, la mouette rieuse tient son nom de son cri, qui ressemble à des ricanements, eh oui. Il faut aussi savoir que selon la saison, la mouette rieuse va changer de tête. Alors, au printemps et en été, la tête de la mouette rieuse va être de couleur chocolat, mais en hiver, elle est blanche avec une petite tache noire derrière les yeux.
Voilà, une mouette rieuse est donc très coquette. Eh bien, maintenant qu'on est incollable sur la mouette et le goéland, on va ouvrir l'œil et le bon cet été. Est-ce que vous auriez un bon livre à nous conseiller d'ailleurs pour tous ceux qui aiment les oiseaux, Claire?
Oui, je peux par exemple vous conseiller le titre « À la découverte des oiseaux ». Il se trouve dans la collection « La grande imagerie des finatures ». Il est parfait pour toute la famille dès 7 ans et vous découvrirez de nombreux oiseaux d'Europe, leurs caractéristiques et en bonus, il y a des jeux et des conseils pour les protéger. « À la découverte des oiseaux ».
Eh bien justement, ce livre, on vous propose de le découvrir et même de le gagner. Et pour cela, c'est tout simple. Vous nous envoyez vite un mail à jeu@rcf.fr, jeu@rcf.fr. Vous n'oubliez pas surtout d'indiquer l'adresse postale et dans quelques jours, eh bien, on tirera au sort parmi vos messages. Je rappelle encore une fois pour gagner ce livre à la découverte des oiseaux, jeu@rcf.fr avec une adresse postale dans votre mail et on tirera au sort dans les jours qui viennent. En attendant, merci Claire pour cette bouffée d'ailes marines et sur ce, on vous laisse prendre le large jusqu'à la semaine prochaine avec les mouettes pour vous accompagner.
Avec plaisir, à la semaine prochaine.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, vous saviez faire la différence entre goéland et mouette, Jean Lemoyle ?
Oui.
Oui, évidemment, qu'ils sont idiotes.
Pas depuis si longtemps, hein. je cafte un peu.
C'est essentiellement la taille, comme disait la journaliste, oui. La personne qui est intervenue, c'est la taille et le bec. Jaune ou rouge.
Avec voilà. Un petit point rouge.
Un petit point rouge. On aurait aussi pu parler de la cigogne, hein, comme celle qui s'est perchée dans les branches de l'arbre, qui illustre la couverture de ce dernier tome de Bretzel et Beurre Salé. On en voit encore beaucoup de cigognes en Alsace, Margot ?
On en voit régulièrement, bien plus qu'à une certaine époque, parce que en fait, donc il y a des élevages de cigognes du côté de Kinsheim, là où se passe justement notre histoire. Mm-hmm. Et il y a un certain nombre de cigognes qui n'émigrent plus en fait l'été, qui ne partent plus, qui restent sur place. Mm-hmm. Donc on les voit régulièrement dans les champs.
Voilà, donc toujours pouvoir découvrir donc des cigognes en Alsace. Alors dans un instant avec vous, on ouvrira ensemble une petite boîte à questions mystères. Ça sera juste après une deuxième page musicale. Et cette fois, c'est vous qui l'avez choisi, Margot. C'est Cookie Dingler, Femme libérée, ce méga tube des années 80. Une raison là aussi à ce choix ?
Alors Cookie Dingler est un Alsacien. Et en plus, il parle d'une femme dont les traits pourraient être ceux de Cathy. Donc ça collait parfaitement à cette émission.
Eh bien, Femme libérée, on va l'écouter et on se retrouve tout de suite après pour ouvrir ensemble notre petite boîte à questions mystères.
Cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Qu'elle sort, même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants.
Voilà, Femme libérée de Cookie Dingler, le choix libératoire de Margot Lemoyle, conteur avec son mari Jean, de Bretzel et Beurre Salé, une série policière alsaco-bretonne qui se déroule dans un petit village fictif de Bretagne, avec une enquêtrice, elle, d'origine alsacienne. Le dernier tome est paru chez Kalman Lévy. Alors, dans ce livre, à la page des remerciements, il y a quelqu'un que vous n'avez pas oublié de citer, un petit indice sonore.
On y va, mit dem Estrosporig ins Kirchjumpfe mit. On y va, mit dem Estrosporig ins Kirchjumpfe mit. Oh, Susanna, ist das Lame noch so schön.
Voilà, alors je vois que ça vous fait beaucoup rire, Margot Lemoyle. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce monsieur? Alors, je ne pourrais pas vous donner le nom de la chanson parce que je ne pourrais pas le prononcer.
Bon, c'est Oh, Susanna. Oui. Il s'agit de Roger Siffer, qui est un chansonnier alsacien. Mon papa avait un disque de lui, où d'ailleurs il y avait cette chanson dessus. Oui. Et quand j'étais petite, il l'écoutait en boucle et je supportais plus.
C'est une vraie torture.
Et en fait, il se trouve que Roger Siffer est maintenant un de nos lecteurs. Et oui. Il nous a écrit. Donc, c'est amusant. Donc, je lui ai écrit. Hein, je lui ai dit, bah, tiens, je connais vos chansons.
Oui.
Et il nous a invités à un de ses spectacles. Et donc, depuis, on échange régulièrement. Et il lit les aventures de Cathy. Et chaque fois, il nous fait des retours très positifs.
Et je pourrais même ajouter que c'est notre spécialiste en gros mots alsacien. Mais qu'ils sont tellement, gros que...
On n'ose pas les mettre tellement.
Un petit mot alsacien. Citez-le, mais donnez pas la traduction. Non, vous n'avez pas un sou de... Non.
Oh, bah, y en a tellement. Hein. Bon. Je vais
allez,
pas.
Bon, alors, tant pis, on va rester là. En tout cas, merci d'avoir précisé donc qui était ce Roger Siffer. Un petit clin d'œil donc qu'on lui fait. Alors, dans cette émission, on a aussi une tradition, mais elle n'est ni bretonne ni alsacienne.
La boîte à tout doux.
Alors, dans les mains, je vous montre, j'ai un petit coffret en bois. À l'intérieur, il y a des cartes, au dos de chacune, une question pour mieux vous connaître. Le principe, il est simple, je vais battre ce jeu et on va tirer trois cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante. Vous avez droit à un joker si ça ne vous inspire pas, mais de toute façon, il n'y a absolument rien d'indiscret. Je ne vous demanderai pas la recette du Kouglof. Alors, allons-y, je remue les cartes. Est-ce que vous êtes prête pour la première? On va commencer par vous, Margot.
Eh bien, allons-y.
Alors, allons-y. Je tire la carte. Vous gagnez 3 millions loto, qu'est-ce que vous en faites?
Oh bah avec 3 millions, je pense qu'on a de quoi s'acheter une belle maison en Bretagne, de quoi aider nos enfants, racheter quelques trimestres de retraite pour partir plus tôt.
Oui, c'est une bonne idée aussi, c'est très à la mode en ce moment. Oui.
Voilà, et puis bah avec ça, s'il nous en reste, bah aider nos proches.
Aider vos proches. Et vous, Jean, si vous gagnez 3 millions loto, vous en faites quoi? La même chose que Margot?
Oui, pouvoir m'arrêter avant. C'est une réflexion qu'on a, parce qu'on est tous les deux ingénieurs, en plus de l'écriture. Enfin, l'écriture étant plus l'ingénieur. Et c'est vrai que par moment, plus que par moment, j'aimerais avoir plus de temps. Donc ce serait une bonne occasion pour s'offrir ce temps.
Soutenir vos proches. Est-ce qu'il y a une association aussi que vous soutiendriez aussi si vous gagnez 3 millions, vous avez un petit peu d'argent de côté, Margot?
Bon bah déjà, l'évêché de Grenoble, pour commencer.
Oui, moi je pense qu'il est à l'écoute. Hein.
Voilà, le
c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Un certain nombre d'associations qu'on aide déjà, hein, de toute façon. Donc même sans les 3 millions.
Ouais. C'est toujours un petit coup de pouce.
Voilà, le pactole serait plus important pour eux, là, c'est sûr.
Tout à fait. Allez, je continue de battre mon jeu. Ça sera à votre tour. Jean, vous m'arrêtez quand vous voulez.
Maintenant.
Alors, on y va. Un petit défaut que vous aimeriez bien corriger?
Je suis très bavard. Je suis très bavard et j'ai parfois du mal à m'arrêter.
Et pourquoi vous êtes bavard comme ça?
Je sais pas. J'étais timide enfant et puis un jour il s'est passé quelque chose, mais alors j'ai pas encore plongé assez profond dans mon inconscient pour savoir quoi. Et voilà, par moment j'ai tendance à parler beaucoup.
Ouais. Vous confirmez ce petit défaut, Margot, par rapport à Jean?
Moi, je trouve qu'il a pas de défaut, donc.
ce qui est déjà un défaut. Alors, je vous retourne la question ce coup-ci, hein, Jean, plutôt Margot, vous, un petit défaut que vous aimeriez bien corriger?
Moi, je suis peut-être un petit peu trop timide, j'ai du mal à me mettre en avant.
Donc, alors, on a un bavard, un timide, donc c'est complémentaire finalement. Donc,
exactement.
Ouais. Vous confirmez cette timidité là aussi, Jean?
J'ai l'impression
d'animer vos amours là. Oui.
Non, mais peut-être que le fait, peut-être que le fait de parler un peu moins permettrait d'équilibrer, pas déséquilibrer la relation, mais c'est temps de parole.
C'est temps de parole. Bon, bah écoutez, alors un peu moins bavard et un peu moins timide, voilà pour les petits défauts à corriger. Allez, on va continuer, toujours avec ce jeu de cartes, pour une dernière question. Alors, c'est Jean, vous m'arrêtez quand vous voulez.
Voilà.
Alors, on y va. Quelles seraient vos vacances de rêve, Jean, si on vous proposait de partir pour une destination, ça serait quoi?
Alors là, je partirais bien en Italie.
Oui, pas en Alsace.
En Italie. L'Alsace, j'y vais déjà, donc c'est plus du rêve. C'est un rêve qui est devenu réalisé.
Oui.
Voilà, que c'est déjà réalisé. Non, je partirais bien en Italie, sur une plage. Alors pas trop chaud quand même, parce que quand on est d'origine bretonne,
attention, faut pas se brûler non plus.
Au-dessus de 30 degrés, on est mal. Oui. Voilà, mais avec dolce vita, plonger dans de la dolce vita.
Et pourquoi l'Italie en particulier, plus qu'un autre pays d'Europe?
Habitant Grenoble, on y va régulièrement, et c'est un pays où on se sent bien, en fait. Je trouve qu'il y a une douceur de vivre qui est réelle. On est bien accueillis. Alors, on n'est jamais descendu ensemble plus bas que Rome. Mais voilà, ce sera l'occasion d'aller un peu plus bas que Rome.
Et vous, Margot,
et
vous accompagneriez...
Les pâtes sont bonnes.
Ah, les pâtes
oui,
sont bonnes.
J'irai, oui.
Vous accompagneriez Jean, ça serait la même destination en Italie.
Ça pourrait être l'Italie, ça pourrait aussi être une plage de sable fin, de l'eau turquoise et chaude, des cocotiers.
Oui. Oui.
Glandouiller sur une chaise longue au soleil.
Tout
voilà,
simplement.
Ce serait, tout simplement.
Tout voilà, simplement.
Avec un bon livre.
Et avec un bon livre, et pourquoi pas bretzel et beurre salé. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. On va fermer la petite boîte et on la rouvrira demain pour notre prochain invité. On se retrouve dans quelques instants pour terminer cette émission.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Voilà, un petit air marin à la mode de Bretagne pour respirer un peu. Alors c'est vrai que la nature, elle est aussi très présente dans votre roman, puisque l'héroïne, Cathy Wahl, vient souvent s'y ressourcer. C'est aussi votre cas à tous les deux. Vous partagez ce même besoin de nature, Margot ?
Oui, alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est me mettre devant la mer et regarder les vagues. Mmh. Et ça a un effet relaxant et délassant, regarder les vagues qui vont
hypnotique.
Et viennent sur un rocher. Ouais. Voilà, tout à fait.
Ouais.
Je pourrais rester des heures à faire ça.
Ouais. Et vous, Jean, vous avez besoin aussi de cette nature, qu'elle soit bretonne ou alsacienne d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Ne serait-ce que quand les phases où on écrit, c'est assez souvent, c'est en marchant. Quand on est à Grenoble, de chez nous en un quart d'heure à pied, on est au pied de la Chartreuse et ça permet de monter après. Et ça détend complètement. Voilà. Ça nous met dans un espèce d'état second et ça fait un bien fou aussi bien dans la tête que dans les jambes.
Dans l'instant. Bretzel et beurre salé, un polsar alsaco-breton à multiples rebondissements, plus léger qu'une choucroute garnie, mais tout aussi savoureux qu'une galette au sarrasin, et c'est à déguster chez Kalman Levy. Je crois que le 5e tome est en préparation, je me trompe pas, Margot ?
Tout à fait, on a bien commencé à réfléchir au scénario et on a commencé l'écriture aussi.
Et ça sera paraître quand ? Vous avez déjà une date, non ?
Début 2024, je pense.
Début 2024. En attendant, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à RCF Isère de nous avoir permis ce duplex. Catherine Ségouffin pour la lecture des extraits. Et puis Nathan Faure, lui qui est un pur produit lyonnais, à la régie technique. Demain, c'est un auteur de bande dessinée qu'on aura le plaisir de recevoir, à savoir François Don, dit Falzar, son domaine Les Grands-Parents, auquel il sait apporter un regard tendre et plein d'humour, à savourer dans Les Chicoufs aux éditions Soleil et Mon Papy Titanic, qui est publié chez Bambou. Et si vous êtes grands-parents, vous allez sûrement vous y reconnaître. Et je précise que c'est Bérangère Loup, qui n'est pas encore grand-mère, qui animera cette émission. On va se quitter tous les deux avec votre dernier choix musical, c'est One Night in Bangkok de Murray Head. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix ? Parce qu'à ma connaissance, il est ni alsacien ni breton. Jean ou Margot, qui veut expliquer ce choix.
On l'écoutait ensemble quand on avait 20 ans et on n'était jamais allé à Bangkok, mais on aime cette chanson, donc il n'y a pas plus de raison que ça.
Eh bien écoutez, en tout cas, un grand merci. Je rappelle encore une fois Bretzel et beurre salé au cachet Kalman Levy pour ce polar, ce cosy mystery à la sauce bretonne et alsacienne. On se quitte avec Murray Head. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.
Of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place.
One night in Bangkok. Town,
sweet summer set up, with the summer set, sweet.
Get time.
is among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine.